Le Ballet dans la Cour, une émission proposée, préparée et présentée par Christophe Jubien. Bonjour à toutes et à tous, je suis heureux de vous retrouver cette semaine encore pour évoquer le zen et les arts de l'éveil au Japon. Nous avons exploré l'esprit et les techniques de la méditation zen, puis nous avons pris le thé avec Maître Ikkyu avant de tirer à l'arc avec Eugen et Riegel et Maître Awa. Enfin, nous sommes entrés la semaine dernière dans le monde merveilleux des grands maîtres du haïku. Je vous propose de poursuivre notre voyage sur les routes du haïku en compagnie d'une grande artiste et traductrice française. Elle s'appelle Manda et si son atelier se trouve à Paris, elle passe une grande partie de son temps au Japon où elle est aujourd'hui considérée comme l'un des grands maîtres de l'ukiyo-e, du haiga et de la calligraphie. Il y a une trentaine d'années, Manda a ressenti le besoin de se libérer des pratiques artistiques académiques, de prendre de la distance, de défaire des liens établis depuis trop longtemps avec la culture occidentale pour en refaire d'autres à sa convenance. C'est alors qu'elle a décidé de partir au Japon. Les fréquents séjours dans l'archipel lui ont donné l'occasion de s'approprier librement de nouvelles pratiques. Elle s'est notamment initiée auprès de maîtres japonais à l'art du trait, le ukiyo-e, ainsi qu'au mystère du haiga, composition ou élément peint et signe calligraphié d'un haïku issu du même pinceau et ne formant qu'une seule et même entité. Manda vient de faire paraître aux éditions synchroniques une magnifique traduction des haïkus de Hōsai accompagnée de haïga de sa composition sous le titre « Haïku du bout du monde ». Elle nous parle de la rencontre avec son maître japonais il y a une trentaine d'années.
J'ai rencontré un maître qui s'appelle donc Yamada Masaoki, qui a aujourd'hui 96 ans. C'est un homme que je respecte énormément, ça veut dire que je le connais depuis 85. Et on est en contact, on travaille ensemble depuis 1985. Donc c'est presque un père spirituel, enfin il fait partie de ma famille. Enfin, vous voyez ce que c'est, il m'a tout appris beaucoup sur le Japon. Et en tout cas, il m'a donné des chemins à suivre. Il m'a initié à certaines démarches. Et je lui en suis évidemment infiniment reconnaissante. Et en fait, cette incitation à me tourner vers la peinture japonaise arrivait à un moment où moi-même, j'avais envie de rompre avec un académisme occidental un petit peu pesant. C'était un art un peu, parfois un peu trash. Où il y avait du sexe, du sang, enfin des choses qui pour moi sont des sujets aux antipodes de la fonction de l'art. Pour moi, je précise bien qu'il s'agit que de moi. En tout cas, moi, je me sentais pas très bien dans ce monde occidental, pictural occidental. Donc cette proposition de me tourner vers la peinture japonaise, évidemment, a fait son chemin. Donc j'ai commencé à pratiquer. Et puis ensuite, Yamada Sensei m'a dit « Ah ben maintenant, il faut faire de la calligraphie. » Ah bon, bah très bien. S'il faut faire de la calligraphie, je fais de la calligraphie. Et j'ai donc fait des haïga, mais sans savoir que c'était des haïga. Figurez-vous que j'imaginais avoir trouvé toute seule un nouveau moyen d'expression graphique, ce qui est quand même un comble. Et alors du coup, quand on fait de la calligraphie et qu'on fait les haïga, on se sent un petit peu obligé de se tourner vers la langue japonaise. Ouais. Forcément, parce que calligraphier un texte, c'est quand même mieux si on peut le comprendre. Ouais. Parce que finalement, la calligraphie, c'est quoi? C'est une interprétation d'un texte. Tout comme le musicien a une partition qu'il interprète. Ouais. C'est un peu ça relève du même principe. Alors, il faut évidemment apprendre la langue et toutes ces difficultés. Qui sont nombreuses. Déjà, il y a une complexité de la structure sociale japonaise. Cette structure est verticale. Elle est honorifique. Et donc, pour un occidental, c'est vraiment un passum, quoi. On a vraiment 90 chances pour 100 de commettre une erreur en termes de politesse. Voyez. Et la langue, bien évidemment, la langue japonaise est tout à fait fait pendant à cette structure sociale. Ouais. Donc la langue japonaise est elle-même construite à base de, on dit que c'est une langue agglutinante, hein, les verbes à la fin de la phrase. Et ben il y a des formes de politesse qui s'emboîtent au passé ou au présent, au passé ou désidératif, au doloratif et au je ne sais quoi. Donc c'est horrible. Enfin, je veux dire, voilà. Et alors, enfin, j'ai trouvé un domaine où je me sentais bien. Il n'y avait pas de structure sociale, il n'y avait pas de famille. C'est la poésie. Comme je m'y sentais très bien, eh ben, j'ai eu envie de la traduire. Voilà, c'est venu un petit peu tout naturellement. Ouais. Et là, j'ai découvert, par exemple, que le synonyme en tant que tel n'existe pas.
Tiens donc.
Il n'y a pas deux mots qui correspondent exactement à la même chose. Oui. Voilà, donc ça, alors qu'on vous parle de synonymes pendant tout votre parcours scolaire, mais en fin de compte, ça n'existe pas. Bon. Et puis, il y a aussi une chose que j'ai découverte, c'est que la place des mots dans la phrase change le sens. Si je dis « demain, je vais faire des courses » ou bien « je vais faire des courses demain », c'est pas la même chose.
C'est pas la même chose.
Il y a des nuances. Il y a des nuances de probabilité, de certitude, enfin, etc.
C'est en pratiquant le haïku, on comprend aussi à quel point le haïku, il y a très peu de mots, à quel point la place du mot est importante.
Absolument.
Pour produire un effet.
Absolument. Oui. Et même des choses inutiles, comme les articles, comme je viens de lire là il n'y a pas longtemps, parce qu'une de mes élèves m'a soumis un texte, c'est « La lanterne du jardin est éteinte, le vent souffle à travers les bambous ». Alors déjà, la lanterne du jardin, quand on traduit toro, c'est obligatoirement une lanterne de jardin. Alors, je veux bien que pour un Français non initié, on dise « la lanterne du jardin ». Mais en même temps, si on dit « lanterne du jardin éteinte », on n'a pas besoin du verbe, on n'a pas besoin de l'article. C'est déjà autre chose. Enfin, au point de vue sonore, au point de vue… Vous voyez ce que je veux dire?
Oui.
Le bruit du vent traverse les bananiers. Moi, je dis le souffle du vent traverse les bananiers. C'est, avec souffle, on a les deux idées de son et de mouvement.
Et de mouvement, oui.
Bon, alors, je ne veux pas m'en prendre à ces traducteurs, mais quand on lit des choses comme ça, on n'a qu'une envie, c'est traduire soi-même. En tout cas, en ce qui me concerne.
Oui, et puis la traduction du haïku, me semble-t-il, fait énormément de progrès depuis, par exemple, René Siffert, qui a été le premier, par exemple, à traduire le...
Oui, bien sûr.
On a beaucoup progressé depuis René Siffert, je trouve, non?
Ah oui, bien sûr. Bah, René Siffert, de toute façon, moi, j'ai lu le dit du Genji dans sa traduction.
Ouais.
Mais c'est horrible, quoi. Ouais. Quand on arrive au bout d'un paragraphe, faut partir au début du paragraphe, parce que il a fait un travail, mais incroyablement précis, difficile, enfin, vraiment. Mais au détriment de la compréhension. C'est que, à force de respecter le français de l'époque du Genji, c'est-à-dire le 11e siècle, eh ben, on arrive au bout du paragraphe, on n'a rien compris, il faut recommencer au début. Donc, c'est un peu pénible. Et je vous assure que lire tout le Genji traduit par Siffert, c'est vraiment c'est horrible, quoi. Mais enfin, bon, quand il n'y en avait pas d'autres à l'époque, hein, donc,
ouais.
Voilà. Et donc, en fait, j'ai approché la peinture japonaise un petit peu comme le haïku.
Comme le haïku. Ouais.
Un petit peu de la même façon. Le soumis surtout, mais aussi la peinture japonaise traditionnelle dans son ensemble. Ça m'a été assez facile parce que le soumis surtout. Offre tout ce que la peinture occidentale ne propose pas.
Ouais. Vous dites qu'elle permet d'écrire une peinture.
Ouais, absolument. D'ailleurs, en japonais, c'est kaku, c'est le même verbe. Dessiner et écrire, c'est le même verbe. C'est pas le même caractère, mais c'est la même prononciation. Et on écrit un dessin, effectivement, ou une peinture, comme on écrit un haïku, quoi. C'est-à-dire avec de l'encre noire. Sur un fond blanc. Alors, ce qu'elle offrait, en fait, cette peinture, c'est quoi? C'est une transparence. Moi, j'ai fait beaucoup de peinture à l'huile. Hein. Ouais. Et la peinture à l'huile, j'ai fait de l'aquarelle aussi beaucoup. Enfin, la peinture à l'huile, c'est vraiment, c'est un écran. C'est un obture. On peut pas aller derrière. Ah, c'est, ouais. On est obligé de rester devant. Il n'y a pas vraiment de profondeur, à mon sens, hein, toujours, je parle en mon nom. Et pour moi, il n'y a pas non plus de spiritualité, qu'offre le sommelier en particulier, oui. Puisque c'est quand même un art qui est tout à fait calqué sur la philosophie du bouddhisme zen. Hein.
Oui, c'est-à-dire, la pratique artistique, c'est une quête spirituelle, d'ailleurs, pour vous, j'imagine.
Oui, bien sûr.
Oui.
Bien sûr. Bien sûr, c'est moi, vous savez, j'ai une chance inouïe, c'est que je suis là devant mon jardin japonais, que j'entretiens toute seule.
Oui.
Mais j'aime le faire, et puis en fait, il n'y a pas beaucoup de jardiniers qui savent le faire, en tout cas tel qu'il doit être fait. Voilà, et je vis dans ce monde-là. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, j'ai mon jardin japonais, j'ai mes auteurs de haïku, j'ai mon encre. J'ai parfois un peu honte de le dire, mais j'ai une vie extrêmement sereine.
Oui.
Et dans un monde de fous, comme on dit. Alors, voilà, enfin, si vous voulez, soumiller et haïku sont bien superposables. Hein.
Oui.
C'est quand même deux chemins totalement identiques.
Est-ce qu'on peut parler de Osai pour finir? Donc, vous venez de lui consacrer un livre en qualité donc de
oui,
peintre
alors,
de haïga.
Oui. Alors, évidemment, de haïkiste en haïkiste, j'ai fini,
oui.
Mais de façon très intuitive, hein, de partir donc, à la rencontre de Osai. Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2008, je suis allée à Matsuyama, donc je finissais le livre sur Santoka, hein,
oui.
Puisque j'ai fait un troisième livre
oui.
Qui s'appelle donc Santoka dans le bol du mendiant. Santoka que j'adore aussi, c'est vraiment, je vénère Santoka, Osai, Tokuboku,
ah, oui, Tokuboku,
enfin
oui.
tous ceux qui sont dans la mouvance oui. De la nouvelle tendance.
Ah.
Hein. Et donc j'ai acheté là à Matsuyama lorsque je suis allée voir Isoan, donc l'ermitage où est mort Santoka. Je suis allée dans une librairie et j'ai acheté les œuvres complètes de Osai. Et là c'était le premier déclic où je me suis dit Osai, il faut que j'aille voir. Encore une fois de façon très intuitive
ouais.
Parce que je connaissais pas, voilà. J'avais juste entendu, peut-être à l'une ou l'autre occasion, voilà. Et donc, pendant 10 ans, j'ai parcouru un chemin qui m'a permis, petit à petit, d'approcher, de découvrir le monde de Osai. Et j'ai fini par arriver à Shodoshima, donc là où il a passé les
ouais.
Derniers mois de sa vie, dans son ermitage Nangohan, donc. Et là, j'ai eu la même démarche que pour Santoka. Quand je m'intéresse à un auteur, j'aime bien connaître sa vie, j'aime bien voir... j'avais fait pareil pour Basho, j'avais
ouais.
Fait une partie de la Santé Étroite
ah, oui.
Du bout du monde. J'aime bien voir les endroits où ils ont vécu, quand ils parlent au Osai du petit chemin devant son ermitage, j'ai vu ce petit chemin.
Ouais.
J'ai vu le cimetière dont il parle beaucoup dans son,
oui.
Dans son livre.
Il y a de très beaux poèmes sur le cimetière, oui, oui.
Voilà, et je suis allée dans le cimetière, je suis allée sur sa tombe, j'ai versé de l'eau sur sa stèle. On doit verser de l'eau parce que, comme chacun sait, c'était un gros consommateur de saké.
Oui, 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 ça... Comme Santoka.
Comme Santoka d'ailleurs. Mais on en parle beaucoup plus
ouais.
À propos de Osai. Alors Santoka, il était parfois, on le ramassait ivre-mort
ouais.
Sur la chaussée. Hein.
Ouais.
Mais Osai, si vous regardez Internet, et ça m'exaspère, il y a des niaiseries qui sont... On parle de ça. Voilà, des niaiseries du style, oui, il était ivre toute la journée. Non, il n'était pas ivre toute la journée. Il était quand même suffisamment lucide pour écrire de temps en temps de très jolis haïkus.
Ouais.
Mais, enfin, voilà, quoi. Et comme en plus, à ce moment-là, il n'y avait pas de traduction, à mon avis, toujours, ça ne concerne que moi, de traduction satisfaisante. Hein, pour beaucoup, les traductions sont des fragments de prose, comme ce qu'on évoquait tout à l'heure. Je trouve ça assez navrant. Mais en même temps, je comprends. Je comprends parce que c'est l'écriture de Osai est d'une telle simplicité, ouais, d'une telle brachylogie, qu'il est extrêmement difficile de traduire. C'est, il n'y a souvent pas de sujet, il n'y a pas de préposition, il n'y a pas... Et j'ai eu la chance de rencontrer, enfin, la ville de Tonofo m'a fait rencontrer un spécialiste de l'œuvre de l'œuvre poétique de Hosai. Et quand je lui ai posé des questions, bah souvent il me répondait « Ah, mais c'est comme vous voulez !» ouais, bon, très bien. Ça n'avance pas beaucoup, mais si vous le dites, ma foi, ce sera comme je veux. voilà. Et c'est en plus une simplicité d'écriture qui paraît banale, ouais, aux yeux de beaucoup, beaucoup de lecteurs, en tout cas aux yeux de tous ceux qui sont, ouais, prisonniers d'un certain, absolument, maniérisme, ouais, littéraire.
Alors, je sais que Ken S. White, qui était un grand connaisseur du haïku, avait très bien expliqué, il disait que le haïku, c'est très simple, mais il est très difficile d'entrer dans cette simplicité.
Absolument. Mais de toute façon, c'est très vrai pour n'importe quoi dans notre esprit occidental.
Oui, oui.
Ah, ça, c'est vrai, moi, je vois bien avec le soumier, avec mes élèves, enfin, etc. Alors, bon, il manque un petit trait. Ah, bah, le trait de la tige va pas jusqu'à la fleur. Alors, on rajoute le petit bout qu'il a... Mais enfin, tout le monde sait qu'une fleur ne vit pas en lévitation autour des tiges. C'est pas la peine. Vous voyez ce que je veux dire ? Notre esprit cartésien, ouais, est tellement fort qu'on n'arrive pas à s'en défaire. Parce qu'on n'arrive pas à dire, à comprendre que lumière éteinte, c'est la même chose que la lumière est éteinte. On a besoin de toutes ces... Mais c'est notre culture, hein. On est... Alors, pour s'en débarrasser, c'est sûr que c'est pas facile, hein. Ouais. Et la traduction, du coup, de Hosai est d'autant plus difficile que lui, il est allé vraiment à la limite du minimum du minimum.
Oui, comme sans aucun, voilà, vraiment d'une simplicité. C'est-à-dire qu'ils ont révolutionné le genre en supprimant ce qu'on appelle les mots de saison, en supprimant évidemment le 5, 7,
la métrique. La, oui, métrique. Bien sûr.
Et là, on est dans une nudité. Je ne sais pas, si on entre dans l'univers de Hosai, c'est tout à fait fascinant et captivant. On est, oui, avec lui, je trouve.
Complètement, ouais, complètement. Moi, je dis, c'est mon double. Enfin, c'est très osé ce que je dis là. C'est très prétentieux, en tout cas. Mais par contre, alors Santoka, lui, il travaillait la musique, ouais, la répétition. Wakaitemo, Wakaitemo, Aoyama. Oui, il y a une espèce, il y a un rythme, ouais, dans les sons, dans la musique. Et ça, il l'a cultivé, mais de façon absolument magistrale.
Ouais,
hein,
ouais.
Et tous, en tout cas, ils avaient un point commun, c'est qu'ils prétendaient, en tout cas, Santoka l'a dit, l'a écrit, en tout cas, bien fort, tout ce qui n'est pas réellement présent, ouais, dans notre cœur ne relève pas du haïku.
Oui, c'est-à-dire que les vertus poétiques sont des vertus morales. La sincérité, l'authenticité, voilà, des choses qui engagent la personne.
Bien sûr, ouais, bien sûr. Et en même temps, ce qui est assez fascinant chez Hosai, c'est que à la rareté des mots, c'est quand même pendant une richesse émotionnelle,
oui,
extraordinaire,
oui, tout à fait. Oui.
Pour ceux qui savent voir, ça y est, un proverbe japonais qui dit « voir et voir sont deux choses différentes ». et ça dit bien ce que ça veut dire, c'est-à-dire il faut, je dirais, écouter avec les yeux, voir avec les oreilles, il faut avoir en tout cas l'intelligence du cœur, ça c'est sûr, et un sens de l'inattendu, vous voyez, de, ouais, se laisser surprendre par toutes ces petites choses de notre quotidien. Moi, je sais que j'ai un bouton de fleur qui va s'ouvrir alors que ça fait 3 ans qu'elle m'a pas fait de fleur. Je suis là et je suis prête à la remercier. Enfin, je me dis...
Oui, ça instaure un autre rapport, finalement, avec la création, avec la nature. Et,
complètement. Hein, complètement. Moi, je n'écrase pas les mouches. Je sors les araignées de la maison. Je trouve que on a cette chance incroyable d'avoir toute cette vie autour, ouais, de nous. Et ça, c'est une grande caractéristique de Hosai. C'est son attachement à tout ce qui vit. Et pourquoi ? Parce que lui, il avait une sensibilité exacerbée par rapport à la mort. Et ça, c'est pour ça d'ailleurs qu'il a une place très 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 particulière dans le cœur des Japonais et au panthéon de tous les haïkistes. Ouais. Parce que le bouddhisme veut qu'on prenne la mort comme un passage, enfin quelque chose d'assez léger finalement. Alors que lui, il avait cette sensibilité exacerbée par rapport à la mort. D'ailleurs, quand on lit, il faut lire à travers ces mots, hein, quand il dit, par exemple, il y a un moment donné dans un texte, il dit « Ishiyama, montagne de pierre », enfin, etc. Il parle des pierres tombales. Ouais. Le cimetière, il y allait pratiquement tous les jours. Et du coup, cette sensibilité-là l'a rendu extrêmement, comment dirais-je, extrêmement attentif à tout ce qui peut... Il écoute même les petites choses qui ont l'air de ne rien dire. Ouais. Enfin, vous voyez, c'est quand même assez fantastique. Enfin, je veux dire, d'avoir cette acuité-là, cette disponibilité d'esprit, c'est fou, quoi. Et bon, donc, moi, je dis, enfin, c'est ma façon de le présenter. Je dis en fait, Hosai, c'est un entomologiste des petites choses de la vie qu'il écoute, voilà, et qu'il traduit dans une mouvance du haïku, donc la fameuse nouvelle tendance, hein, tout comme Shiki, tout comme Santoka, Takuboku, enfin, etc. Et pour moi, Hosai fait partie et l'une des très très grandes figures de la poésie, je dirais même pas japonaise. Ouais. Je dirais de la poésie en général. Ouais. Faire découvrir ce poète à un public francophone, c'est vraiment le projet, je crois, de toute ma vie qui me tient le plus à cœur. Hein. Bon, de plus, j'ai été très honorée puisque Sa Majesté l'Empereur du Japon, je sais pas si vous le savez, le 3 novembre 2017, m'a conféré l'ordre du Soleil Levant Rayon d'Or et d'Argent, ce qui est une distinction absolument prestigieuse. Ouais. Et j'ai donc, vis-à-vis de cet honneur, j'ai un devoir d'être à la hauteur.
Vous vous sentez redevable. Mais vous l'êtes tout à fait, Manda.
Merci. Je ne sais pas si je le suis, en tout cas, j'essaye.
Merci beaucoup. On va écouter très rapidement un peu de musique et puis je vais lire quelques haïkus, extraits donc de Haïkus du bout du monde, les haïkus de Hosai, illustrés, traduits par Manda. C'est un livre qui est magnifique, en plus, qui est très très beau. Il est très beau à regarder, à lire. Enfin bref, c'est un livre qu'on garde auprès de soi. Merci beaucoup.
Ben, merci à vous.
Accueilli par une fillette de l'île, me voici. Accueilli par une fillette de l'île, me voici. Ami d'un ermite, amateur de saké, la lune, un rond parfait. Venu de loin, rendu, m'empresse d'écrire une lettre. Combien d'allumettes soufflées, sous le vent de la mer, nous parlons. Feu d'artifice dans le ciel, à l'aplomb des lumières, la ville, bien là. Shoji, grands ouverts, je sors acheter des petits poissons. Nuage de fumée, du bout de sa pipe, un homme m'indique le chemin. À la recherche d'un travail, j'arpente la ville, que des gens qui vont et viennent. Maisons imbriquées. Arrivé en ville, le cri d'un marchand. Sur un toit douillet, quelqu'un s'affaire. Bon, bon, sous l'épais toit de chaume, les battements d'une horloge. Un œuf acheté dans chaque manche, retour à l'ermitage. Le grand pain, une maison pour les moineaux, mon logis, l'ermitage. Le vent souffle, lui fait mes dévotions. Courir, filer dans le vent. Après la tempête, le ciel bleu, tout bleu. Surgit des feuilles, la fleur du lotus en son matin. Gravit la colline, à perte de vue, des villages désolés. À flanc de coteau, un champ, un pain unique, et du blé qui bleuit. Tard levé, propulsé par la ville, la lune, là, suspendue. Mer, rien qu'un ruban, bien exigu, l'unique fenêtre. Au point du jour, sur la plage, face à mon visage. Suivi par un chien, ne sait depuis quand, j'arpente le bord de mer. Mes jambes blanches, les étends sur la plage. Belle matinée, une clochette, un pèlerin.
Voilà, c'était quelques petits extraits de ce magnifique livre Haïku du bout du monde, des haïkus de Osai, traduit donc et interprété en style Aiga par l'artiste française Manda. Excellente fin de journée à toutes et à tous. On se retrouve la semaine prochaine et là, eh bien, nous évoquerons la pratique du zen en compagnie d'une méditante, une française, Marie-Christine Loubris, qui rentre tout juste d'un séjour de 3 mois dans un monastère zen au Japon. Excellente fin de journée à toutes et à tous. À la semaine prochaine.